jour, de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous demander comment favoriser l'indépendance et la liberté de la recherche, comment échapper à une logique de rentabilité immédiate, comment donner du temps aux meilleurs de nos chercheurs pour encourager leurs échanges interdisciplinaires et internationaux. Piste de réponse dans un lieu unique au monde, l'Institut des hautes études scientifiques, l'IHES, qui abrite en son jardin les plus savants mathématiciens et physiciens théoriques. À l'occasion des 60 ans de l'IHES, et en avant-goût de la soirée Savant Mélange, qui rassemblera ses déchiffreurs de génie dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Nous sommes en direct avec le directeur de l'IHES, le mathématicien Emmanuel Ulmo, le physicien visionnaire Thibaut Damour, et en duplex avec la mathématicienne Laure Saint-Raymond. Nous serons aussi en ligne avec le youtubeur de science Bruce Benhamran, autour de la question « Comment déchiffrer le monde en toute liberté ?» Bienvenue. Bonjour Thibaut Damour.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous. C'est toujours un grand plaisir de recevoir le physicien visionnaire que vous êtes, mondialement reconnu pour vos travaux novateurs sur les trous noirs, les pulsars, la cosmologie quantique et les ondes gravitationnelles. Votre travail de recherche sur ces ondes gravitationnelles, qui vous a d'ailleurs valu la médaille d'or du CNRS, a été décisif pour leur détection 17 ans après que vous l'ayez théorisé. La recherche, Thibaut Damour, c'est un peu une course de fond qui se joue forcément sur le temps long, dans une confiance, dans une liberté que vous avez trouvée à l'IHES, où vous avez été nommé professeur en 89, je crois.
Oui, j'ai trouvé effectivement à l'IHES un cadre incomparable avec une liberté totale de travail et de pensée. Je me rappelle avoir demandé au directeur à l'époque si je devais orienter mes recherches plus vers les mathématiques. On m'a dit non, on vous offre un poste parce que vous êtes, vous, Thibaut Damour, quoi que vous fassiez, on pense que ça sera bien. Mais du coup, ça donne une grande responsabilité parce que on me faisait confiance. Donc, ça oblige à se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Est-ce que je peux faire encore mieux qu'avant? Et là, le cadre de l'IHES joue un rôle merveilleux. En sens, d'abord, il y a le calme, la quiétude d'avoir de très bonnes conditions de travail, d'avoir un parc aussi.
Le parc du Bois-Marie.
Voilà, du Bois-Marie, qui est très agréable pour le calme de la réflexion. Et de pouvoir avoir beaucoup de visiteurs. Dès mon arrivée à l'IHES, j'ai invité beaucoup de personnes à venir. Donc, par exemple, Stephen Hawking est venu la première année, mais je n'ai jamais collaboré avec lui. Et puis après, j'ai eu des étudiants, des post-doctorants. Par exemple, le travail de l'année 1999 qui a joué un rôle effectivement important pour la détection des ondes gravitationnelles a été fait avec une jeune postdoctorante italienne qui est restée plus de 2 ans à l'IHES et donc on a pu collaborer. On pourrait croire que c'est vieux jeu de discuter autour d'un tableau, de croire qu'aujourd'hui il suffit de travailler par Internet, mais en fait la discussion de deux cerveaux différents dans la même pièce, ensemble, autour d'un tableau noir,
ça produit
de nouvelles idées, vraiment. On se dit ça va pas être ça parce que tout le monde sait tout. Non, la discussion, poser les questions et être ensemble au même moment, écrire sur un tableau, beaucoup d'idées nouvelles sont sorties grâce à ça.
Emmanuel Ulmo, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes le directeur de cet institut, pas tout à fait comme les autres, on l'a compris, sorte, je sais pas, d'abbaye de Thélème un peu moderne. Alors vous êtes vous-même, Emmanuel, mathématicien, spécialiste de géométrie algébrique. Vous définiriez comment cet institut dont vient de parler Thibaut Damour comme un petit oasis, un vivier, un lieu d'excellence aussi, alors assez petit par sa taille, mais quant à sa renommée, gigantesque.
Enfin, un Thélème des mathématiques et de la physique, ça m'allait, il n'y a pas de problème.
Ça vous va bien.
Ou une Villa Médicis des maths, ça a d'autres aspects qu'on aime bien. C'est une petite institution, enfin, vraiment une taille modeste. Il y a un petit corpus de professeurs permanents au plus haut niveau, dont Thibault ici présent, et quelques mathématiciens, quelques physiciens. Donc principalement mathématiques et physique théorique. Et on a un programme d'investition de grande ampleur, avec plus de 200 chercheurs qui viennent tous les ans pour des séjours de recherche, en moyenne 2 mois et demi. Donc,
profiter du voilà. cadre et d'échanger.
À tout moment, on a une cinquantaine d'invités. Et le modèle qu'on suit, effectivement, c'est des séjours de recherche. C'est un peu ce que disait Thibault. On se rend compte, en particulier en mathématiques, que quand on discute avec un auteur, on est capable de comprendre ses travaux extrêmement rapidement, alors que la lecture est très lente. Et les échanges dans notre discipline sont un facteur clé pour avancer.
Il faut se parler, hein, deux cerveaux face à face, et dans un parc, c'est encore mieux. Bonjour Laure Saint-Raymond.
Bonjour.
Merci d'être en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Rhône-Alpes à Lyon. Alors vous êtes une des plus brillantes mathématiciennes de votre génération, Benjamine de l'Académie des sciences, professeur à l'École normale supérieure de Lyon. Vous partagez votre passion pour les maths et vos recherches à l'interface de la physique et des mathématiques. Vous allez les partager en public, donc dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Ce sera le 16 octobre prochain, dans la soirée Savant Mélange, mais aussi en cercle plus restreint, toujours avec les amis de l'IHES, le 22 novembre prochain, autour du désordre. Le désordre est presque sûr, le titre me plaît bien. C'est important, Laure Saint-Raymond, vous le pensez aussi, d'échanger, alors en désordre ou pas, mais à ce niveau-là d'excellence et en vrai, avec vos pairs?
Ça me semble tout à fait essentiel. D'abord, enfin, je pense que les gens ont différentes façons de travailler, mais moi j'aime beaucoup travailler en équipe. Pour moi, en fait, les mathématiques, c'est un langage qui, certes, est assez abstrait, mais qui permet de formuler beaucoup de choses différentes. Et le fait d'avoir chacun sa propre représentation des choses et de confronter ces différentes représentations, me semble, permet d'avancer beaucoup. Quelque part, on est un petit peu bousculé dans sa propre conception du problème par ce que l'autre va proposer. Et je trouve que c'est ça qui fait évoluer les problèmes, les preuves, et qui permet d'aller de l'avant.
Donc, vous êtes avec des mathématiciens, vous dites que les mathématiques, c'est un langage pour vous, donc qui parle au fond le même langage que vous, à tous les sens du terme, c'est ça?
Alors c'est difficile parce qu'à la fois c'est on parle le même langage, mais ce qui est difficile, c'est de passer de ce langage abstrait à une représentation qui est différente pour chacun. Donc pour moi les mathématiques, finalement, c'est très proche de l'art. Alors je sais que c'est pas du tout ce que le grand public a comme représentation du scientifique ou encore moins du mathématicien, mais pour moi vraiment c'est quelque chose qui est extrêmement... C'est une discipline qui demande beaucoup de créativité, et puis voilà, où à la fois le langage est commun, mais chacun a sa petite touche personnelle, et c'est vrai que en confrontant différents points de vue, il me semble qu'on va plus loin.
Alors tous ces points de vue se confrontent à l'IHES, Thibault Damour, vous l'avez dit souvent, autour d'un tableau noir et avec des craies. Je propose d'écouter l'extrait du clip annonçant cette soirée Savant et Mélange, où l'on vous retrouve d'ailleurs.
À quoi ça sert que les gens soient ensemble dans la même pièce puisqu'ils peuvent communiquer par Internet? Eh bien non, écrire à la craie sur un tableau, j'ai vu que de nouvelles idées sortaient.
Ça permet de montrer les choses, de mieux expliquer les idées. Ça permet de travailler à plusieurs.
On peut essayer n'importe quoi. Et si on se trompe, on l'efface.
Sur le papier, c'est trop petit. Dans l'autre salle, il y a 6 tableaux et je remplis tous. Ça donne le plan pour garder plusieurs idées, plusieurs pistes en même temps.
Il ne faut pas sous-estimer l'importance du tableau en mathématiques et en physique théorique.
avec tous les accents pratiqués à l'IHES, ne sous-estimons pas l'importance du tableau noir et des craies qui font un peu partie, j'ai envie de dire, c'est une drôle d'expression, mais de l'ADN de l'IHES, ce tableau noir et ses craies, Thibaut Damour.
Oui, d'ailleurs, sur tous les tableaux de l'IHES, il y a des petits panneaux ne pas effacer pour que les femmes de ménage n'effacent pas les tableaux.
On
peut reprendre, voilà, on peut continuer, mais à condition que ça n'ait pas été effacé. Et donc les femmes de ménage savent faire attention à ça. Oui, c'est surprenant que quelque chose d'aussi ancien que le tableau noir puisse jouer un rôle. Bon, il y a le côté physique, nous sommes incarnés et...
Debout, hein, devant le tableau aussi, hein.
Les idées, parfois, surtout quand elles sont confuses, on a besoin de mouvement et parfois quelque chose qui n'est absolument pas clair, en s'obligeant à l'écrire. Mais effectivement, l'écrire sur un tableau, on peut effacer à tout moment. Il n'y a pas le réflexe que si on écrit noir sur blanc, ça va rester éternellement. Donc peut-être quelque part, ça débloque des choses. Et puis surtout, la personne avec qui on discute, si on est en train de discuter, peut immédiatement réagir. Et expérimentalement, en tout cas, c'est vrai, discuter autour d'un tableau noir... j'ai eu plusieurs exemples dans ma carrière où de nouvelles idées, tout d'un coup, qui n'étaient pas encore présentes, voilà, apparaissent.
Et qui arrivent à quoi? À deux, trois cerveaux devant un tableau noir,
oui,
avec une craie,
mais,
quoi,
mais il faut en général deux, trois cerveaux. C'est vrai que si on est seul face à un tableau noir, sans doute ça marche moins bien.
Alors il y a quelques rituels, si j'ose dire, il y a une liberté totale dans cet institut qui fonctionne de manière particulière, hein, l'IHES qui fonctionnait comme ça dès le départ. Il y a quelques rituels, c'est quoi? C'est le déjeuner en commun et le thé vers 16h pour que mathématiciens, physiciens puissent échanger, se parler, Emmanuel Hulmeau.
Donc je voulais revenir sur une chose que vous avez dite, c'est effectivement quand on entend... ce petit extrait, on entend
toutes les voix.
Et effectivement, on a, par exemple, depuis les 10 dernières années, il y a 60 nationalités ont été représentées à l'Institut. Et c'est aussi une partie de la richesse de l'Institut d'avoir des gens qui viennent avec des cultures scientifiques différentes. On se rend compte que les mathématiciens... ont des manières de fonctionner de manière extrêmement différente. Il y a des écoles mathématiques et les confronter aussi, quelque chose de très important.
Et ça se confronte donc aussi autour autour du déjeuner, autour d'un thé, c'est ça, hein ?
Et donc, une des manières les plus simples de se rencontrer à l'IHES, c'est le déjeuner et le thé, qui est rituel à 4 heures. Et... Donc les conversations commencent par hasard parce qu'on est assis à côté d'un invité qu'on n'avait pas prévu particulièrement. Chacun explique ce qu'il essaye de faire, quels sont ses centres d'intérêt. Et de temps en temps, les gens s'aperçoivent qu'ils ne travaillent pas sur des choses si lointaines qu'ils avaient imaginées au début. Et puis la conversation commence et... des fois, il en sort des choses très intéressantes.
Et c'est quelque chose d'assez étonnant. Pour nous, profanes, on n'a pas l'impression que les mathématiques, ça se discute, ça se... autour d'un déjeuner, d'un thé. Enfin voilà, Thibaut, c'est quelque chose qui nous étonne.
Oui, je me souviens que la première fois que j'avais été invité à donner un séminaire à l'IHES, avant qu'on me fasse une offre de professeur permanent, je me suis retrouvé à table à côté d'un mathématicien qui s'appelle Von Jones. Et à l'époque... son nom était très connu dans le monde entier parce qu'il avait inventé des nouveaux polynômes. Et moi, je savais pas du tout ce que c'était et j'avais l'impression que je n'arriverais pas à comprendre, que c'était très abstrait. Et à un moment, j'ai tout de même osé lui demander « Mais alors, c'est quoi les polynômes ?» Et sur un petit bout de papier, parce qu'à table, il y a des petits carrés de papier et toujours de quoi écrire, il m'a en fait, en trois lignes, défini les polynômes de Jones. Et effectivement... Lire un article, il y a une barrière de langage, parce que les articles sont écrits, il y a toujours un préambule, on est obligé de citer beaucoup de choses, et puis on ne dit pas l'essentiel, en fait. L'essentiel est un peu caché au milieu du texte. Alors quand vous parlez à quelqu'un, quelqu'un de haut niveau, en fait, il va vous dire en une minute, non, l'idée essentielle, c'est ça. Et l'idée est souvent très simple. Vous pouvez expliquer les choses que vous faites, les dernières choses importantes, vraiment en 2 minutes, comme ça, sur un bout de papier. Et c'est là où les discussions à déjeuner à l'IHES permettent effectivement d'apprendre des choses, de communiquer, de commencer des collaborations dans certains cas.
Laure Saint-Raymond, vous partagez aussi ce goût de la conversation autour d'une table, d'un déjeuner, d'un thé, avec quand même, j'ai l'impression, un petit papier et un petit crayon à côté pour noter quand on ne comprend pas.
Alors moi j'aime bien le papier pour écrire et aussi pour dessiner, je pense que
ah oui.
Pour se faire des représentations des objets mathématiques ou physiques, c'est quelque chose qui est très important, représenter des arbres. Moi dans les thématiques qui m'intéressent, où il y a pas mal de physique statistique, voir comment les objets interagissent entre eux et essayer de représenter ça, même si faire une représentation en 2D, ce qui est la seule chose qu'on peut faire sur un papier, c'est toujours un petit peu restrictif. Je trouve que voilà, c'est un support qui est important justement pour, comme disait tout à l'heure Thibaut, très justement, il me semble que faire cet effort de formaliser les choses pour les faire comprendre à l'autre, ça nous permet d'avancer nous-mêmes aussi, parce que y a toute une démarche entre le moment où quelque part on commence à avoir une idée qui est assez vague et le moment où on arrive à la formaliser précisément et à en faire un théorème ou un nouveau concept en physique. Et voilà, dans cette démarche, le fait de s'obliger à d'une part à dire les choses de façon compréhensible par quelqu'un d'autre, mm-hmm. et puis d'autre part, comme le disait aussi Thibaut, d'essayer d'aller vraiment au cœur du problème, à l'essentiel de l'idée qu'on a. Je crois que c'est une étape qui est vraiment très importante. Moi, j'expérimente beaucoup parce que mon sujet de prédilection était vraiment à cheval entre les maths et la physique. Donc, c'est deux cultures très différentes. Et je trouve vraiment que faire cet exercice de passer d'un langage à l'autre est quelque chose qui est extrêmement fructueux.
Fructueux, fertile à l'IHES. En plus, on ne fait pas que des mathématiques ou de la physique théorique. On fait aussi de la musique. Alors, Laure Saint-Raymond, je sais que vous êtes violoncelliste. Thibaut Damour, vous êtes pianiste et vous avez même enregistré sur le piano de l'IHES avec la cantatrice Virginie Landré un lied de Mahler, Ich bin der Welt. On en écoute un extrait.
Thank you.
Magnifique interprétation de ce Lied de Malheur par la cantatrice Virginie Landré sur RFI. Ich bin der Welt, c'est vous au piano Thibaut Damour, Ich bin der Welt, je suis le monde. Ça résonne hein, sur le piano de l'IHES, l'Institut des hautes études scientifiques.
Oui, et en fait, après Ich bin der Welt, c'est Ich bin der Welt abandon gekommen, c'est-à-dire je suis coupé du monde.
Ah.
C'est en fait un Lied où on est au-delà du monde, à mon avis une des plus belles œuvres de toute la musique. J'aimerais qu'on la joue pour mon enterrement, tellement c'est beau.
Même avant, hein, même avant, hein, on peut bien la réentendre, il n'y a pas de problème. Mais être dans le monde et hors du monde, c'est
oui,
un peu...
Oui, être hors du monde, c'est
être, un peu
en fait...
aussi, dans un institut comme celui-là, comme l'IHES, vous êtes dans les deux, vous êtes à la fois dans le monde, dans les bois, dans la nature, et en même temps... hors du monde, pour pouvoir réfléchir, on peut faire la métaphore ou la comparaison.
On peut faire la métaphore, mais disons aussi que la musique, effectivement, la plupart des scientifiques ne séparent pas la culture humaniste habituelle de l'art et la culture scientifique. Pour nous, les deux cultures sont les mêmes. La science est une culture et la beauté de toutes les formes de l'art, mais pour moi en particulier la musique, m'a accompagné toute ma vie. Donc c'est une partie de ma vie que j'ai continué. J'ai joué du piano relativement jeune et j'ai toujours fait de la musique de chambre. Et d'ailleurs, ces temps-ci, je fais la musique de chambre avec une jeune mathématicienne violoniste très douée dont on a entendu la voix tout à l'heure, Fanny Cassel. Donc ça, c'est à côté. Ça n'est pas une façon de dire oui, les mathématiques, c'est de la musique ou la musique, c'est des mathématiques. Non, c'est à part. Mais pour nous tous, la physique, l'esprit scientifique, c'est pas quelque chose d'abstrait. C'est bon, ça reste très abstrait, mais c'est quelque chose qui permet de découvrir des structures dans l'univers, surtout pour la physique. Je veux dire, la physique découvre quelque chose de compréhensible dans l'univers qui pourrait être totalement incompréhensible.
Et vous citez d'ailleurs souvent Einstein, je crois,
oui,
le monde et ce qui est
ce qu'il y a de plus incompréhensible au monde, c'est que le monde soit compréhensible. Et Einstein était aussi quelqu'un pour qui la musique a été importante toute sa vie. Mais il en faisait aussi comme ça, à côté, c'était pas une partie essentielle de sa recherche, mais pour beaucoup de physiciens et de mathématiciens, je pense que la musique est un élément important de la vie personnelle.
Laure Saint-Raymond, on peut dire la même chose pour vous. Hein. Vous êtes violoncelliste, je crois que vous avez même longtemps hésité entre la recherche, donc à l'interface mathématique et physique, et puis faire votre métier du violoncelle.
Oui, je ne regrette pas ce choix parce que je garde une grande liberté dans ma pratique musicale, peut-être plus que si j'en avais fait mon métier. C'est effectivement pour moi... une autre forme d'expression, j'ai envie de dire, c'est-à-dire une autre façon d'entrer en relation avec des gens. J'aime beaucoup la musique de chambre et je trouve qu'on peut partager des choses très très fortes sans les mots. Et quelque part, dans le travail scientifique, il y a aussi une façon d'aller au-delà des mots. Et voilà, je pense que c'est le parallèle. Je pense pas que la musique aide mon travail scientifique ou que la science prédispose particulièrement pour la musique.
Mais ce sont des facettes.
Je trouve que voilà, c'est important aussi pour faire de la bonne recherche, d'avoir une vie qui est équilibrée par ailleurs. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose de très important.
Alors la question de l'équilibre, de l'harmonie, la question du beau, elle occupe beaucoup de mathématiciens. Je propose d'écouter l'un des plus célèbres mathématiciens français, aujourd'hui député, Cédric Villani, qui sera lui aussi présent à cette soirée anniversaire de l'IHES, Savant Mélange, et qui nous avait donné sa définition du beau en mathématiques. On l'écoute.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire le beau en mathématiques? Vous imaginez, j'aime bien cette analogie, imaginez que vous deviez expliquer à un sourd pourquoi la musique c'est beau. Hein, là, vous êtes un peu embêté. Vous réfléchissez, vous voyez qu'il y a une notion d'harmonie, une notion de mariage qui se répond, une notion d'instrument qui s'accorde pour donner une mélodie ou des différentes partitions qui se répondent. Mathématiques, ça va être pareil, une belle démonstration. Une démonstration dans laquelle différents ingrédients, différents concepts mathématiques vont s'arranger harmonieusement, se répondre les uns les autres, de façon à ce que chaque partie joue son rôle et que les agencements se fassent bien. Et puis, il y a une notion de surprise, évidemment. Si un morceau de musique vous frappe pas au cœur à un moment, vous surprend pas, vous n'allez pas vraiment le trouver beau. Et c'est pareil en mathématiques. Il faut qu'il y ait la surprise. Il faut quelque chose d'inattendu. Un argument qu'on n'attendait pas. Un raisonnement qui semble sortir de nulle part, qui n'était pas naturel, et qui résout le problème d'une manière foudroyante, peut-être.
La beauté, la surprise. Thibaut Damour, vous voulez réagir à cet éclairage de Cédric Villani sur le jaillissement, jaillissement d'idées
Jaillissement d'idées, oui. Et aussi, il disait avec des formes, pour revenir à quelque chose qu'a dit aussi Laure avant concernant les dessins. Oui. Je pense que la notion de diagramme en physique, c'est-à-dire pouvoir... Beaucoup de choses qui sont très abstraites, à la fois en sciences et en musique... peuvent avoir des représentations graphiques qui sont symboliques. Hein. Ce n'est pas des petits dessins avec des arbres, c'est des symboles qui représentent des arbres, ou ça peut être des diagrammes qui représentent des structures de groupes, de certaines structures mathématiques. En physique, il y a beaucoup de diagrammes depuis les lignes de force qui ont été inventées par Faraday autour d'un aimant. On a tous vu ça autrefois à l'école, que si on met de la limaille de fer sous un aimant, on voit tout d'un coup des lignes qui n'avaient pas l'air d'exister. Et donc, la physique utilise beaucoup, souvent, des diagrammes qui habitent et habillent l'espace et les théories. Et souvent, ce que je veux dire, il y a même une théorie philosophique des diagrammes, puisque cette virtualité du diagramme a une puissance qui n'est pas intellectualisable directement. C'est-à-dire, le diagramme en tant que tel a plusieurs sens et polysémique. Et parfois, simplement en dessinant un diagramme, on peut faire des connexions entre tel domaine de la physique, tel domaine des maths ou plusieurs domaines des maths. Et donc là aussi, c'est un côté où, où l'âme humaine et sa visualisation, donc quelque chose qu'on attribuerait d'abord à l'art, peut jouer en fait un rôle central en mathématiques.
On est vraiment, Emmanuel Hulmeau, dans le savant mélange, hein, savant mélange des genres.
Oui, donc... Moi, je voulais revenir sur ce point, pourquoi le beau est une question centrale pour les mathématiciens et pour les physiciens. C'est que, en fait, peut-être contrairement à la représentation que les gens peuvent s'en faire, le problème pour un mathématicien n'est pas, est vraiment de choisir son sujet. Et parce que l'ensemble des possibilités mathématiques est quasi infini. Et à tout moment, il doit se dire... Qu'est-ce qui fait sens pour moi ? Pourquoi telle partie des mathématiques a de l'importance pour moi ? Et son critère de choix est de nature esthétique. C'est-à-dire qu'il est...
Il va là où, ce qu'il trouve le plus beau à rechercher.
C'est ça.
En l'occurrence, géométrie algébrique, c'est parce que...
Ou la théorie des nombres. Mais parce que c'est là que je sens que... j'ai l'impression qu'on explique le plus de choses de la manière... La plus condensée, la plus... Voilà. Et donc, je pense qu'en permanence, les mathématiciens cherchent leur sujet, leur motivation, et leurs motivations sont de nature esthétique, comme effectivement d'autres artistes ou d'autres choses comme ça.
Donc on rejoint l'art et l'esthétique. Je ne sais pas si c'est le beau que vous allez favoriser dans cette soirée savant mélange. En tout cas, Emmanuel Hulmeau, vous avez invité à cette soirée anniversaire de l'IHES, ce sera le 16 octobre prochain, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Vous avez invité un formidable passeur de sciences, le youtubeur Bruce Benhamran, qui totalise plus d'un million d'abonnés sur sa chaîne YouTube Pensée. Bruce Benhamran est en ligne avec nous par téléphone depuis Strasbourg. Bonjour Bruce.
Bonjour.
Alors vous êtes vous aussi à votre manière un défricheur, un déchiffreur de science. Je ne sais pas si c'est le beau de la science ou des mathématiques ou de la physique que vous faites passer. En tout cas, vous faites passer les mathématiques, la physique, toutes ces sciences dites dures à un large public. Il suffirait quoi de prendre le temps d'y penser, Bruce ?
Alors, pour le coup, en ce qui me concerne, je fais très peu passer de mathématiques. Je le déplore un petit peu parce que j'adore les mathématiques. Mon idée centrale étant qu'il y a une tradition en France chez les gens de dire « moi j'ai été nul en maths, donc les sciences ce n'est pas pour moi ». Moi ce que j'essaye de leur faire comprendre, c'est que quand on ne veut pas être scientifique, quand on ne veut pas être chercheur, on a le droit aussi de s'intéresser au mouvement des planètes ou à pourquoi le ciel est bleu ou ce genre de questions, sans pour autant se poser la question des mathématiques. Cela dit, effectivement, moi j'ai aussi beaucoup de passion pour l'élégance en mathématiques.
Et pour cette liberté d'échange, cette liberté de recherche, hein, qui est quand même la marque de fabrique de l'IHES, vous avez aussi, j'imagine, je ne sais pas si c'est une passion, mais en tout cas envie de faire passer quoi, cette curiosité-là, une forme de liberté. Vous dites même si on n'est pas chercheur, on peut s'y intéresser, on peut comprendre certaines choses ou l'aborder par d'autres manières.
Je pense qu'au cours des dernières décennies, c'est peut-être en train de changer, je ne m'en rends pas encore bien compte, mais au cours des dernières décennies, il y a une espèce de méfiance qui s'est installée entre le grand public, on va dire simplement le grand public, et les chercheurs, avec cette espèce d'idée que les chercheurs sont des gens qui ne font que chercher, qui ne savent pas ce qu'ils cherchent, et puis ils ne sont pas des trouveurs. Et alors qu'en même temps, avec le développement notamment d'Internet et des communications, des réseaux sociaux, tout ça, on a vu pas mal de groupes avec des formules un petit peu plus attractives, mais pas du tout scientifiques, attirer des gens. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des regains de gens qui nous expliquent que la Terre est plate, qu'on n'a jamais marché sur la Lune, tout ça. Et je pense qu'il est essentiel de rappeler au grand public qu'un chercheur ne cherche pas dans le vide et que tout ce qu'on utilise aujourd'hui de technologie, tout ce qu'on a aujourd'hui de progrès ne vient pas du néant non plus. Et vient parfois de chercheurs qui ne cherchaient pas du tout ce qu'on a trouvé au final.
C'est ça aussi, c'est mettre en avant aussi, j'imagine, la recherche fondamentale qui donne des résultats. On parlait de sérendipité, qui peut donner des résultats par hasard ou pas.
Bien sûr, bien sûr. La recherche fondamentale, c'est une tautologie, mais c'est fondamental. Je ne vois pas comment le dire autrement.
Vous la faites très bien passer hein, sur votre chaîne YouTube. Y pensez, Bruce Benhamon, qu'est-ce que vous voudrez faire passer dans cette soirée, donc savant mélange, où vous serez en compagnie d'éminents mathématiciens, physiciens, aussi d'un conteur. Enfin, vous serez un peu le moins chercheur de la soirée.
Ah bah, je serai non seulement le moins chercheur, mais le moins expert, le moins compétent, entre guillemets, de la soirée, évidemment. Moi, ce que j'essayerais vraiment de faire passer comme message, c'est rappeler l'importance aux experts de garder une communication à contact avec le grand public. Le modèle anglo-saxon fait ça plutôt bien. Je veux dire, déjà à l'époque de Faraday faisait des démonstrations publiques de tous ses travaux. Et aux États-Unis, ils ont eu l'habitude, avec des gens comme Carl Sagan, Richard Feynman ou encore aujourd'hui Neil deGrasse Tyson, ils ont vraiment cette habitude d'avoir des experts qui racontent ce qu'ils font et qui essayent de leur apporter vraiment de la curiosité et de l'étonnement. En France, on a moins cette culture-là. Ça existe, mais on l'a moins.
Donc, c'est comment favoriser cette culture-là? C'est un peu le but de cette soirée Savant Mélange, Emmanuel Hulmeau.
Oui. Une des motivations de cette soirée, ça a été une visite qu'on a fait aux instituts Solvay.
C'est en Belgique.
En Belgique. Et qui organise des conférences extrêmement importantes en physique, mais aussi organise des événements grand public avec en général deux conférenciers au plus haut niveau. Et dans les dernières années, il y avait toujours 3000 participants qui venaient à ces événements. Donc on s'est dit, si à Bruxelles, il y a la place pour 3000 personnes qui viennent vouloir écouter de la science, ça doit être possible de faire pareil à Paris, et on commence modestement.
Dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, qui est déjà plein d'ailleurs, chez vous, Bruce Benhamran, sur votre chaîne Y Penser, vous rassemblez quoi, plus d'un million d'internautes?
Oui, c'est ça, aujourd'hui, alors c'est à peu près 1 028 000. Ce ne sont pas tous des membres totalement actifs de la chaîne, évidemment. Il y a des gens qui se sont abonnés il y a 4 ans, qui peut-être n'ont plus la chaîne depuis. Mais globalement, c'est chaque vidéo est vue un demi-million de fois au moins, oui.
Et cette soirée Savant Mélange, elle sera évidemment à suivre en direct sur Internet et bien sûr podcastable. Bruce Benhamran, merci d'avoir été par téléphone avec nous. Je renvoie nos auditeurs internautes sur votre chaîne YouTube Y Penser. Et nous, on poursuit dans le Savant Mélange des genres. Le savoir est une arme. 12 Kawa sur RFI.
On m'a dit, putain, Kawa, faut pas d'histoire,
pas ton dieu d'eau.
Alors du coup je casse d'être ce trac au vrai contre-pouvoir. Merci à la police, aux gendarmes. Yeah. Éteint ta télé, lis un livre, ils ont bien voulu qu'on débatte. On soutient les esprits libres. Yeah. Snowden, Assange, hey. Wikileaks,
hey. Stéphane Hessel,
c'est longtemps affronté. Charlie Hebdo, Bradley Manning, on est souvent du même côté. Rémi Garnier, Anonymous, les prisonniers politiques du monde entier. Depuis l'Antiquité, tu sais, rien n'a vraiment changé. On assassine toujours les messagers. Le savoir est une arme. Le savoir est une arme d'instruction massive, y'a pas que les photos de charme. L'intro mission assiste, nettoyer l'argent sale, les petits sachets de lessive. Y'a le savoir qui est une arme, qu'à son mode d'emploi dans les livres. Parlant du fond du cœur, de la vérité vraie du monde. Depuis toujours c'est les vainqueurs qui violent et qui fécondent. Pour dire on a baisé vos femmes, on est les leaders génétiques. La domination animale, ce vieil instinct archaïque. Tous les assassins de la guerre sont des héros s'ils gagnent la guerre. Nagasaki, Hiroshima, tandis les manuels scolaires. Les lance-pierres de Palestine qui sont punis par des missiles. Un blessé pour 200 morts dans l'expédition punitif. Le terrorisme est inactif, selon le sens des bombes. Ils envahissent le tiers-monde lorsqu'il y a deux buildings qui tombent. Les collabos, les colonies et le code noir. Souviens-toi que c'est les vainqueurs qui rédigent les livres d'histoire. Le savoir est une arme d'instruction massive. Y'a pas que les photos de charme, l'intro mission assiste. Nettoyer l'argent sale, les petits sachets de lessive. Y'a le savoir qui est une arme, qu'à son mode d'emploi dans les livres. Mais pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Faut-il vraiment choisir un camp entre Youssef et Joseph? Tout vainqueur, insolent, à sa perte travail. Prenez garde d'être modeste après le gain d'une bataille. Car parfois le futur, au passé joue des tours. Nos actuelles préfectures sont nos anciennes commandantours. On y soit la guerre et les teubés qui la pratiquent. On voit jamais qu'on tue des frères quand on joue à Battlefield 8. On fait la fête, on redécore pour des causes vite oubliées. Mais rappelez-vous que les morts n'apprécient pas le jubilé. Population mondiale, prenez bien garde à vous, sous peine de voir votre liberté, le crâne rasé, à genoux. Le savoir est une arme.
12 Kawa, le rappeur au poète de Strasbourg, sur RFI. Le savoir est une arme d'instruction massive. Ça vous inspire quelque chose, Laure Saint-Raymond? Emmanuel Hulmeau, Thibaut Damour.
Bon. Bah, je pense que d'être capable de déguiser sa capacité à réagir par rapport à une situation, c'est extrêmement important. Et quelque part, je voudrais peut-être faire une réflexion qui est peut-être un tout petit peu hors sujet, mais pas complètement, je pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est de plus en plus spécialisés. C'est-à-dire que même dans les gens qui ont une profession intellectuelle, à l'intérieur d'un comité des chercheurs, on apprend, on va très loin dans une direction. Mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour avoir cette culture scientifique large qui permet d'être aujourd'hui un vrai citoyen. Je crois que c'est pas quelque chose qui est optionnel pour pouvoir prendre part aux débats de société qui sont omniprésents sur l'éthique, sur le climat, sur l'énergie. Je pense qu'il faut que tous nous soyons éveillés à la science et pas juste de façon très pointue. Vraiment que nous ayons la curiosité d'élargir,
regarder
au travers, d'élargir notre point de vue dans toutes les disciplines.
Thibaut Damour.
Je voulais aussi faire une autre réaction à ce rap dont, d'ailleurs, il faudrait que je relise les paroles parce qu'il y a une arme d'instruction massive, mais il y avait aussi allusion à Nagasaki, Hiroshima. Donc, dans la société, effectivement, parfois la science est identifiée à certaines conséquences comme la bombe atomique ou d'autres choses, et pas à toute la beauté intellectuelle qui est derrière. Et il y a actuellement un vrai danger que la société se mette à rejeter la science. D'abord, il y a beaucoup d'irrationalisme qui se développe partout. Et j'aimerais attirer l'attention sur le fait que, en fait, toutes nos sociétés qui sont fondées sur la science, toute la technologie est fondée sur la science et l'esprit humain, ont une certaine fragilité. On se rend compte, par exemple, et c'est détaillé dans le livre de Lucio Russo qui s'appelle La Révolution perdue, qui est la révolution des Grecs, que la civilisation grecque alexandrine avait atteint un très très haut niveau scientifique et technologique, comme le montre la machine d'Anticythère, et tout ça a disparu très rapidement. a disparu à cause de l'invasion.
C'est pas une garantie.
Voilà, il y a eu l'invasion des Romains qui s'intéressaient pas du tout à la science. Et les débuts de l'Église chrétienne qui aussi rejetait la science au début. Et donc, en fait, on a perdu toute une science qui était de très haut niveau. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un espèce de vrai danger. Beaucoup de gens utilisent des smartphones, utilisent GPS, sans comprendre les milliers d'années de pensée, de beauté intellectuelle qui est derrière ça. Donc, l'irrationalisme nous guette. D'ailleurs, on voit que politiquement aussi, actuellement, il y a des turbulences qui font que les gens font plus confiance à des choses qui ne sont pas rationnelles.
Et sans comprendre aussi, j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'on avait envie de faire cette émission autour de l'IA. De l'IHES, sans comprendre aussi que la recherche fondamentale, c'est très important, et ça n'est pas que pour nous fournir de nouveaux outils technologiques, pour avoir immédiatement une application pratique et marchande.
Oui, d'ailleurs, le premier mathématicien engagé à l'IHES a tenu à prendre comme exergue du livre qu'il a écrit, Dieudonné, pour l'honneur de l'esprit humain. Parce qu'il y avait eu une conversation entre deux grands scientifiques, Fourier, qui était un Français lié à l'État et qui avait inventé des outils mathématiques importants, les séries de Fourier, mais qui considérait que la science devait servir la société. Et Jacobi, un mathématicien allemand, qui lui disait non, une question de nombre, c'est-à-dire sur les nombres entiers, est aussi importante que toutes les applications sociétales. Et donc, pour l'honneur de l'esprit humain, Jacobi défendait la science pure. Même si, en fait, par exemple, Jacobi a inventé des techniques pour résoudre la mécanique newtonienne, qui sont très importantes pour beaucoup d'applications pratiques aussi. Mais
c'est
Jacobi, voilà, tenait
à mettre... Par hasard qu'il y a des applications pratiques, c'est ça.
Et donc, beaucoup, la science est d'abord une façon de défendre l'honneur de l'esprit humain. Et c'est ça qu'on devrait garder à l'esprit.
L'honneur de l'esprit humain qui se fera sûrement entendre dans cette soirée de savant mélange, un savant mélange universel et interdisciplinaire où l'on pourra aussi écouter un conteur. Alors il s'appelle Malek Boukherchi. C'est un conteur un peu particulier parce que c'est aussi un ultra-marathonien du désert. Et sur RFI, sur les bonnes ondes de RFI, il nous propose un petit conte. Peut-être que c'est le même qu'il proposera dans la soirée savant mélange, sait-on jamais, au micro de Raphaël Constant.
Un savant mélange. Il y a le mot savant, même si je crois beaucoup plus au questionnement. Pour moi, le savant, c'est celui qui sait questionner, parce que les questions rassemblent, les réponses divisent toujours. Et donc, le savant doit se cultiver aussi de l'ignorance. Donc pour moi, c'est de jouer sur les deux registres, entre celui qui sait, mais peut-être celui surtout qui ne sait pas, parce qu'il sera en mode questionnement. Et le mélange, cette capacité à basculer du clonage au métissage, à aller chercher la diversité, à aller chercher des regards autres, à aller chercher des profils complètement différents, voire même qui surprennent et qui étonnent. Et le savant mélange, eh ben c'est cette alchimie subtile entre l'ombre et la lumière, entre forcément le dur et le doux, entre le pesant et le léger. Je dis, tiens, ça va être très riche d'aller entendre ce que ces belles personnes auront à dire sur ces enjeux qui nous importent tous. Comprendre, entendre, admettre.
Comprendre, entendre, admettre. Dans cette soirée savant mélange, on écoute maintenant le conteur et ultramarathonien du désert Malek Boukherchi nous faire son conte berbère sur RFI.
On va aller sur une histoire, peut-être sur une des plus belles valeurs qui soit, parce que bon, j'ai eu l'occasion, je travaille beaucoup là-dessus, surtout quand on est ultramarathonien. On essaie d'incarner la notion de courage. Et savant mélange, c'est une posture courageuse. Courage est une notion qui est extrêmement importante. Ça vient du latin coré qui veut dire le cœur. Et le courage, c'est suis ton cœur, il connaît le chemin. Et donc, il y a une belle histoire, petite histoire berbère qui raconte ceci. Une maison, quelque part, loin du chaos de la ville. Et dans cette maison habite la peur. La peur qui est présente, la peur qui vient annihiler et paralyser toutes les actions. Et la peur règne en maître dans cette maison. Elle est heureuse. Et arrive le courage qui rentre, qui arrive sur le pas de la porte. Il est au niveau du seuil et il crie « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Et la peur crie « La peur !» Elle rigole, elle est heureuse. Et le courage entre. Et il n'y a plus de peur. Et bien la vie, c'est ça. La peur n'a qu'une seule peur, c'est que tu la quittes.
Je ne sais pas si ce joli conte de Malek Boukherchi vous parle, Thibaut Damour, ou parle aux chercheurs courageux et curieux que vous êtes tous, Emmanuel Hulmeau, Laure Saint-Raymond. Emmanuel, vous avez choisi ce conteur qui a un parcours très particulier, on n'a pas le temps de s'y arrêter, mais qui va compter pendant cette soirée Savant Mélange.
Oui, on espère qu'il apportera quelque chose de différent. Et, enfin,
il va ouvrir hein, les,
il
portes,
va
et
ouvrir
fenêtres,
les portes et les fenêtres. Voilà, ça, c'est le... on pense que si on va vers le public pour présenter ce qu'est la science au plus haut niveau, on ne peut pas juste dire comment nous on voit les choses uniquement. Il faut aussi que d'autres personnes apportent leur point de vue et le sien me semblait très pertinent, enfin au moins intéressant.
Laure Saint-Raymond, vous parlez de langage mathématique, on est dans un autre langage, celui du conte, mais ça permettra quoi? Peut-être d'ouvrir un peu nos oreilles.
Moi, j'aime bien ce... Oui, j'aime bien la posture qu'il propose. Donc, c'est une posture de courage. Pour moi, c'est aussi une posture de questionnement. Je crois que être, si les chercheurs s'appellent des chercheurs et pas des trouveurs, même si on espère que de temps en temps ils trouvent des choses, c'est cette posture de questionner tout le temps, de jamais penser qu'on est arrivé, jamais penser qu'on a atteint le but. Et je trouve que voilà, je pense que cette façon de compter les choses permet de se mettre en marche.
De se mettre en marche. Alors sur quoi allez-vous vous questionner, Laure Saint-Raymond? Quels sont vos sujets de recherche à venir, donc à l'interface entre maths et physique?
C'est très difficile. Je crois que la science est très imprévisible. Ça dépend d'une rencontre, ça dépend d'un résultat qu'on a trouvé avant. Ça dépend d'un lien qui peut se faire de façon étrange, d'un pont avec une autre discipline. Donc c'est difficile de répondre à la question de savoir ce qu'on fera dans 2 ans ou 3 ans. Après, bon, il y a plein de choses qui m'intéressent. Je suis très curieuse. Mais ce qui m'intéresse derrière tout ça, c'est d'essayer d'isoler dans des problèmes qui semblent compliqués, complexes, des structures qu'on peut retrouver voilà, d'une discipline à l'autre.
Entre mathématiques et physique.
Ouais, donc typiquement, ce qui m'intéresse dans la physique, c'est de comprendre tous ces problèmes de changement d'échelle, de savoir comment ce qui se passe à une toute petite échelle dans l'océan va produire des changements à très grande échelle, et comment on peut tenir compte, voilà, comment les choses s'empilent, comment dans un gaz, ce qui se passe au niveau de l'atome va changer la statistique à un niveau macroscopique de ce qu'on peut observer. Voilà, moi c'est cette notion d'avoir différentes échelles et que tout s'emboîte qui me fascine beaucoup.
Thibaut Damour, vos recherches, maintenant que les ondes gravitationnelles ont été détectées, ça, j'imagine que ça vous intéresse moins, si j'ose dire.
Tout à fait, oui. Donc du coup, je laisse d'autres personnes poursuivre ce qu'il faut poursuivre dans cette direction, mais je m'intéresse ces temps-ci à deux aspects des liens entre le monde quantique et le monde classique, c'est-à-dire comment la description par la physique quantique du réel peut nous donner des renseignements utiles sur la description classique et comment il a remplacé aussi, donc à la fois du côté du Big Bang, qu'est-ce qui se passe, comme on dit, avant le Big Bang, c'est-à-dire à des temps plus petits que 10⁻⁴ secondes, quelle est la description quand il n'y a plus d'espace, et aussi qu'est-ce qui se passe dans une collision quantique de particules, est-ce qu'on peut retrouver l'interaction gravitationnelle classique de deux trous noirs à travers la théorie quantique de la diffusion de particules. Voilà,
c'est
ça qui
m'intéresse. De quoi discuter, j'imagine, à l'UHES, Emmanuel Hulmeau, autour de déjeuner, de thé ou autour d'un tableau noir avec une craie. Merci infiniment d'être venu en direct dans ce studio. Merci Emmanuel Hulmeau, Thibaut Damour. Merci Laure Saint-Raymond d'avoir été en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Rhône-Alpes à Lyon. Je vous renvoie, amis auditeurs et internautes, sur cette soirée Savant Mélange de l'IHES le 16 octobre prochain dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, bien sûr. Visible en direct sur le net et podcastable ensuite sur la chaîne YouTube de l'IHES. Et vous pouvez aussi, amis auditeurs et internautes, consulter le site RFI Savoir. Sur ce site, notre dossier Le Monde et les mathématiques.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté. Au plaisir de vous retrouver demain pour découvrir les travaux particulièrement stimulants d'une équipe de chercheurs toujours debout, malgré leur handicap. Autour de la question, comment réparer les hommes? Que peut la science face au handicap? À suivre demain avec Hugo Violas à la réalisation, Sophia Bédard et Caroline Fillette en coulisses. Merci de votre curiosité et de votre interactivité. Amis auditeurs, prochain journal dans un peu plus d'une minute sur RFI.